chez le homard. Nous sommes proposés et animés par Christophe Abramowski. Les Chinois, ils l'entendent.
Bonjour, bonjour à tous sous le rocher, le homard. C'est une émission qui parle des enfants, des ados et de leurs parents. Vous nous retrouvez un lundi sur deux, le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois en direct de 19h à 20h et le mardi suivant de 11h à 12h pour la rediffusion. Vous pouvez aussi nous écrire à sousle-rocher@gmail.com et retrouver nos émissions sur le blog sousle-rocher.canalblog.com. Certaines études rendent compte du manque de performance scientifique des petits Français, de leur désamour face à la physique, aux mathématiques et autres sciences dites dures. La science ne serait donc plus à la mode. Mais si être nul en science n'était pas une fatalité? Si la science, c'était autre chose que le prof sévère en blouse blanche avec son compas géant et sa craie blanche qui crisse contre le tableau? Eh oui, Aristote disait « l'homme pense parce qu'il a des mains ». Et si la science, obscure pour beaucoup d'entre nous, se pratiquait par l'expérimentation? Si nos mains mettaient la main à la pâte de la chose scientifique? Et si, en petit débrouillard, nos enfants jouaient aux agitateurs scientifiques, aux observateurs du réel? Si à l'école ou ailleurs, les enfants bricolaient la science comme leur bicyclette? Si, entourés de génies illuminés, de curieux invétérés, de chercheurs illustres, de découvreurs méconnus, ils s'amusaient de la science pour mieux la connaître? Finalement, le savoir scientifique doit-il simplement se penser en termes de performance, d'usage immédiat, d'application commerciale, ou doit-il servir à éveiller, interroger le monde, à pratiquer l'art de la critique et de l'analyse? La science n'est-elle pas aussi un outil de la citoyenneté et sa vulgarisation, une manière de s'inscrire dans l'éducation populaire? Rendre la science accessible à tous, n'est-ce pas aussi le meilleur moyen de faire vivre la démocratie? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder avec Jean Matricon, qui est physicien à la retraite. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi membre de l'association La Main à la Pâte.
Absolument.
Un autre membre de cette association de La Main à la Pâte, qui est Pierre Bonnefond, qui travaille au CNES et également qui est professeur des écoles.
Oui, tout à fait. Je suis mis à la disposition du CNES à mi-temps.
D'accord, d'accord.
Bonsoir.
Bonsoir. Et nous avons une représentante des petits débrouillards, Clémence Nioche, qui est administratrice Midi-Pyrénées.
Oui, c'est ça.
C'est ça, Clémence. Bien. Et donc, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est que c'est. Alors, le terme de vulgarisation scientifique, effectivement, qu'est-ce que ça recouvre? Alors, peut-être commencer par vous, Jean Matricon. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot de vulgarisation scientifique ou qu'est-ce que vous y mettez?
J'y mets uniquement le souhait de faire comprendre aux gens que la science n'a pas besoin d'être vulgarisée parce qu'elle elle se porte d'elle-même. Quand on la regarde du bon côté, elle ne demande qu'à être accueillante, qu'à nous recevoir en ouvrant tout grand ses bras. Et par conséquent, la vulgariser, je trouve que c'est quelque chose d'un peu dépréciatif.
C'est pas joli, mais oui. Franchement, on ne l'a pas toujours regardé du bon côté alors, hein, la science, pour certains d'entre nous. Hein,
je pense que la science souffre dramatiquement d'un regard de plus en plus sévère, je dirais depuis le milieu du XXe siècle. Autrefois, la science était vue de façon absolument merveilleuse. Vous oui. avez, à la fin du XIXe siècle, tout un tas de... Enfin, il suffit de lire ce qu'étaient les livres d'école pour voir à quel point l'image du scientifique, que ce soit Pasteur ou des gens comme ça, était merveilleuse. Et ce qui s'est passé scientifiquement au XXe siècle, avec, je dirais, la bombe atomique, les grandes épidémies, le sida, et choses comme ça, ça n'a certainement pas embelli l'image de soins, loin de là.
Bah, ce n'est pas tout à fait la même chose entre la bombe atomique et puis le sida.
Malheureusement, il y a de la part du public une vision par rapport à la science qui a un peu tendance à confondre tout.
Ah oui. Il y a une image dépréciative de la science et du scientifique.
Liée au fait que ce sont les scientifiques, en gros, qui sont responsables de tout ça.
Oui. Vous, évidemment, c'est parce que Pierre Bonnefond, de la main à la pâte également. Vous, quand vous allez à l'école, travailler avec les enfants sur l'art d'expliquer les sciences un peu différemment, évidemment, pour vous, l'image du scientifique, vous essayez un peu de redorer son blason.
Je ne vais pas expliquer les sciences. Je crois que ce que vous avez dit en introduction était très bien sur tout ce qui est citoyenneté, démocratie, éducation, analyse critique. Je rejoins ce qu'a dit Jean, porter le plaisir. Essayer de faire partager mon plaisir, parce que j'ai eu sans doute la chance d'avoir des enseignants qui m'ont fait aimer les sciences, mon plaisir d'être un scientifique, puisque je suis aussi un scientifique, aux enfants des écoles, aux enseignants, puisqu'il y a aussi un besoin chez les enseignants, puisque ces enseignants sont, comme vous l'avez dit, ont été victimes du prof en blouse blanche avec la crique grissée. C'était une belle caricature parfois. Et donc je ne vais pas expliquer la science, je vais partager et je vais donner le plaisir de faire des sciences ou de la science.
C'est ça, repartir de la question du plaisir, de la découverte, de cette fameuse expérimentation. On y reviendra sur les modalités, un peu comment vous pratiquez. Et Clémence, alors l'association La Main à la Pâte, c'est une association qui travaille avec l'éducation nationale.
Je vais tout de suite faire une petite nuance. Ça n'est pas une association.
Ah, ça n'est pas une association.
Ça n'est pas du tout une association. La Main à la Pâte, c'est, comment dirais-je, c'est une espèce de concept, si vous voulez. C'est une idée qui a été lancée. C'est une sorte de modèle pédagogique utilisable pour enseigner la science. Mais ce n'est absolument pas une association. Il y a un certain nombre de gens qui se sont ralliés à cette idée et qui ont fédéré un groupe de gens autour d'eux pour les aider à les porter la bonne parole, si vous voulez. Mais il n'y a jamais eu d'association en ce sens-là, donc il n'y a pas de membres de La Main à la Pâte, il n'y a que, des adhérents à l'idée de La Main à la Pâte.
Voilà. D'accord, très bien. Par contre, les petits débrouillards, Clémence.
Les petits débrouillards, c'est une association.
C'est une association.
C'est une association de loi 1901, voilà. Et c'est une association qui existe depuis 20 ans. Et en fait, elle n'est pas née comme La Main à la Pâte, c'est une association, c'est une idée exportée du Canada. Dans les années 80, et l'idée, le concept, la philosophie était la même que La Main à la Pâte, à savoir donc se réapproprier les sciences et comment enseigner les sciences de façon différente. Mais ça s'est plutôt développé au départ en dehors du cadre scolaire. C'était que ça s'inscrit dans le mouvement d'éducation populaire, donc démarche citoyenne et rapprocher le monde scientifique, en fait, du citoyen.
C'est pour ça que vous êtes souvent basé dans les quartiers, au cœur même des quartiers, pour pouvoir travailler avec les jeunes et les MJC. Enfin.
Voilà, on peut travailler, donc au départ, ça va être dans les MJC, les centres d'animation, les centres sociaux. Et il s'est développé parce que l'association, elle existe depuis 20 ans, donc on a parcouru pas mal de territoires, mais on peut travailler aussi également avec des enseignants dans le cadre scolaire ou dans le cadre périscolaire, c'est-à-dire des ateliers qui vont se faire à l'heure de l'étude de 5 à 6, mais dans l'école, donc on est encore dans un autre contexte.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Mais vous êtes des associations. Enfin, pardon.
Des structures.
Oui, mais je ne sais pas comment dire. Des concepts, des structures. Où vous vous croisez, vous vous rencontrez, vous travaillez un peu ensemble, ou vous êtes un peu par la force des choses, parce que il y a beaucoup de choses à faire.
Moi, je fais partie, par exemple, de Planète Science, qui est une autre association à caractère scientifique.
Oui.
Je suis membre de Planète Science. Jean a fait partie pendant pas mal d'années des petits débrouillards.
Tout à fait. Oui. Donc, j'ai d'ailleurs pas coupé les ponts avec eux. Hein, loin de là. La preuve, c'est que je suis là.
Nous nous sommes retrouvés ce week-end sur une grande manifestation scientifique qui s'appelait Explora Science. On a été ensemble pendant tout le week-end.
Oui, parce qu'il y a régulièrement des manifestations pour justement redonner la place de la science dans la société. C'est ça. C'est un peu ça l'idée de la philosophie. C'est vraiment la question de la science et de la société. Ça ne doit pas être séparé. Il faut essayer de rapprocher tout ça.
Je pense que ce n'est pas vraiment l'idée directrice principale. C'est pas la science et la société. Et pour nous, en tout cas, à la main à la pâte, il y a beaucoup plus un rapport humain direct, si vous voulez, à la science. C'est l'enfant en face de la science, l'enfant en face de lui-même, confronté à la science. Et du coup, et ça nous insistons beaucoup, c'est une démarche dont la portée va bien au-delà de la science. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus.
C'est une démarche dont la portée va bien au-delà de la science.
Oui, oui.
Oui. Clémence.
Ouais, peut-être pour situer, parce que du coup, on est encore en train de parler des sciences comme une espèce de sphère où on ne peut pas rentrer dedans. Donc,
oui.
Peut-être qu'on va peut-être vous illustrer, en fait, à travers la main à la pâte ou l'association des petits débrouillards, et en quoi ça se rapproche des sciences et de la société, ou de comment est-ce qu'on aborde les sciences. Mais ça va être plutôt que d'avoir un livre avec une formule physique incompréhensible, des espèces de sigles bizarres, ça va être on se pose la question, il y a eu une tornade la semaine dernière à tel endroit, mais comment ça marche une tornade?
Finalement, au départ de la science, il y a la question.
Et voilà.
Mais avant d'aller dans la question, on va écouter un peu de musique.
Terrible dans un accident, c'est quand on arrive à l'hôpital avec les chaussettes trouées et les pieds sales. Tout, t'es relatif. Tout, t'es relatif. Tout, t'es relatif. Tout, t'es relatif. Une personne âgée, une fracture du bassin, on peut dire que c'est grave, mais pour un poisson rouge, c'est pire. Tout, t'es relatif. Tout, t'es relatif. Tout, t'es relatif. Tout, t'es relatif. Come on. I'm a little bit Qu'importe de savoir si le verre est à moitié vide ou s'il est à moitié plein, l'important c'est qu'il en reste dans la bouteille. Tout, t'es relatif. Comme disait Einstein, qui était relativement pas con.
Sous le rocher, le homard. Une émission proposée et animée par Christophe Abramowski.
Sous le rocher, le homard.
Et aujourd'hui, nous parlons de la science et du plaisir qu'il peut y avoir à comprendre, à pratiquer, à enseigner, à évoquer, enfin bref, à jongler avec la science. Et nous avons trois invités, Pierre Bonnefond et Jean Matricon, qui sont tous les deux des scientifiques et membres de cette espèce de sphère de fous illuminés, heureux, qui travaillent à la main, à la pâte, gracieusement, auprès des enfants notamment. Et Clémence Nioche, qui, elle, appartient à l'association Les Petits Débrouillards. Donc, on disait, au départ de la science, finalement, il y a le questionnement scientifique et la curiosité. Clémence, vous aviez la parole.
Oui, c'est ça. Il faut que je retrouve ce que je disais, mais on parlait de effectivement les sciences, nos deux structures, elles vont se rejoindre dans l'idée de se poser des questions et dans la démarche de comment est-ce qu'on aborde les sciences.
Donc, finalement, c'est un peu comme ça que fonctionnent les enfants. Ils se posent des questions, ils s'interrogent en permanence, et vous revenez à cette base-là, vous, pour travailler.
Tout à fait.
Disons que c'est comme ça que devraient fonctionner les enfants si on leur laissait suffisamment de liberté. Mais il faut bien dire que l'école n'a pas toujours fonctionné comme ça. Et depuis une cinquantaine d'années, ce n'était pas très, très glorieux à ce point de vue-là.
Oui, bah, on va pas aller très loin sur la question de l'école. Mais bien entendu, avec la massification de l'école, le nombre d'enfants qui sont arrivés, etc., il y a des explications qui peuvent venir, mais votre travail, vous, c'est de partir d'une question très pratique, Clémence.
Je peux parler au nom voilà. Pour l'association des petits débrouillards. Ça va être effectivement d'être dans une démarche scientifique pour aborder les sciences. Donc, et la démarche scientifique, c'est effectivement de se poser une question, d'essayer de démettre des hypothèses pour répondre à cette question d'essayer de tester, d'expérimenter. Donc voilà, et en fonction du résultat de notre expérience, soit d'avoir une réponse, soit d'infirmer ou de confirmer une hypothèse, et puis souvent de se reposer une autre question encore, et puis de recommencer. Et c'est ce plaisir de justement de se poser des questions et d'avancer dans son questionnement au fur et à mesure.
Pierre Bonnefond, alors oui.
Ce qu'a dit Clément, c'est très important, c'est cette démarche hypothético-déductrice, c'est un terme un petit peu compliqué, qui correspond vraiment à la démarche scientifique. Je crois que dans l'éducation nationale, même encore malgré tout ce que l'on met en place pour aider, pour sensibiliser les enseignants, on n'en est pas tout à fait tout le monde, avec tout ce qui est fait autour de la sensibilisation aux sciences des enseignants, ça existe, mais dans cette démarche-là, ce qui est très important, ce que disait Clémence, où on la rejoint dans l'esprit démarche main à la pâte, souvent on a parlé de la démarche main à la pâte, alors que c'est la démarche d'investigation, commune à tout le monde, même à vous.
C'est gentil.
C'est cette réflexion autour d'un problème, d'un questionnement et l'émission d'hypothèses. Et on va observer, chercher, manipuler, expérimenter pour valider ou invalider les hypothèses émises. C'est ce fonctionnement, c'est ce que nous faisons tous les jours.
C'est-à-dire qu'avec les enfants, vous leur faites toucher du doigt qu'ils formulent des hypothèses.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est
tout
ça, c'est, vous dites, ah ben là, tu vois, là, tu es en train de faire de la science.
Non, on ne le dit pas comme ça, Jeanne.
Je crois que vous viens de dire exactement l'endroit qui est la clé de la démarche. C'est-à-dire, il faut inciter les enfants à avoir la démarche. Il faut surtout bien se garder de ne pas la jouer devant eux.
On n'est pas dans un cours magistral.
Absolument, surtout pas. Et c'est tellement... Il faut vraiment faire attention.
Oui.
Il faut vraiment arriver à suggérer l'idée qu'il y a des questions à se poser. Et ensuite, leur laisser une certaine liberté. Et mon expérience, c'est que ça marche vraiment très bien.
Oui.
À partir du moment où on a amorcé le processus, où on leur a montré un petit truc là, un peu bizarre, hein,
oui.
Et on leur dit, bon, maintenant, allez, faites un petit peu tourner votre cerveau, posez-vous des questions, et puis si vous posez-les-vous entre vous, c'est très important. Ce n'est pas à nous seulement qu'il faut les poser, vous les posez entre vous, et vous essayez de trouver une réponse entre vous. On en discutera quand vous commencerez à avancer là-dedans. Ça, c'est la première étape. Est-ce que je peux continuer là?
Bien sûr, bien sûr.
Donc,
on est pendu à vos lèvres.
Donc, il est évident qu'il faut les aider, en particulier lorsqu'ils veulent effectivement... D'abord, il faut être sûr que le questionnement est quand même censé. De temps en temps, il y a des questions qui dérivent un petit peu. Mais une fois qu'on a bien cerné la question, il faut les aider à mettre en place leurs expériences. Donc, il faut avoir un petit peu de matériel. Il faut avoir du goût pour ça.
C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, ils formulent plein d'hypothèses et vous leur dites, ben maintenant, allez, on va essayer de voir si ça marche.
Voilà, c'est ça. On leur demande de nous décrire le protocole de l'expérience.
Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple précis d'une expérience scientifique simple qu'on peut faire avec des matériaux rudimentaires? Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit?
Non, là, moi, je ne pas...
je vous pose... Le sujet qui est une problématique, même pour les adultes, c'est l'existence de l'air. L'air existe-t-il?
Ah oui, c'est vrai qu'on le voit pas.
Alors,
c'est vrai que je
vous écoute.
Moi, je crois tout ce que je vois, mais là, je le vois pas l'air. Alors, je me demande si ça existe. Ouais.
On va commencer par chercher avec des tout petits tous les phénomènes qui vont permettre de prendre conscience de qu'il existe quelque chose qu'on ne va pas forcément...
Ah oui, si, monsieur, je sais, c'est le vent.
Le vent, ouais. Voilà. Le vent, c'est le linge qui sèche, le papier qui s'envole. Et on va commencer à prendre conscience, déjà, dès les tout petits, qu'il y a quelque chose, effectivement, qui va venir. Ensuite, que l'on caractérisera comme étant de l'air, avec des propriétés. Mais c'est très, très progressif. Par contre, les situations sont... très simple et très agréable. Je finis toujours par la notion de plaisir, agréable. Je crois que ce que avec Jean, quand des fois on se retrouve ensemble, notre moteur, c'est le plaisir. Quand vous avez des enfants qui maîtrisent ou qui ont adopté cette démarche, quand vous voyez leurs yeux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traduire.
Vous êtes payé un yeux qui brille.
Pratiquement, oui. Okay. C'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Oui. La plus belle reconnaissance, surtout. Oui, tout à fait.
Et donc l'air, vous m'avez pas fait... Alors bon, moi, je vois le vent, quoi, mais je sais pas, moi...
Il suffit, je jette ta feuille, peut-être, en l'air.
Oui.
Je jette ma feuille en l'air, allez. Elle tombe en faisant des mouvements bizarres. Elle tombe pas tout de suite.
Pourquoi ?
Eh ben, je sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui gênait.
Si on fait une boule.
Ah. Voilà. Alors, Jeff, oui, il fait une boule.
Allez.
Ah, ben là, ça tombe mieux.
Enfin, en tout cas,
ça tombe plus vite.
Plus vite. Et pourquoi ?
Ben, c'est lourd. C'est plus lourd.
C'est plus lourd.
Ah, ben non, c'est pas plus lourd.
Ouais, et non. Ah, là, Jeff est déjà passé à un niveau supérieur. C'est l'agitateur du groupe.
Oui. Jeff est assez agitateur, effectivement. Il perturbe souvent, d'ailleurs. On essaye d'être comme à l'école, d'être sage. Et avec lui, on n'y arrive jamais.
Mais c'est surtout ce qui est, pour rebondir par rapport à la notion de plaisir, ce qui est surtout agréable, c'est que on arrive à parler de science par rapport au quotidien. Enfin, mm-hmm. Je sais qu'au petit débrouillard, il y a la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on se pose des questions du quotidien. Mais j'habite au troisième étage. Comment ça se fait que quand j'allume mon robinet d'eau, j'ai de l'eau qui coule? Si elle vient d'en bas, l'eau, elle peut pas monter toute seule. Comment est-ce que l'eau, elle fait pour aller pour prendre mon bain alors que j'habite au troisième étage? Ça va être, comment est-ce que je fais pour avoir de l'électricité avec du vent quand je vois des éoliennes? Mais comment ça marche, en fait? Parce que moi, je sais qu'il me faut des piles. Enfin, voilà. On va partir à chaque fois des questions qu'on se pose. Mais moi, en tant qu'animatrice, maintenant, j'en viens à me poser des questions et avoir cette démarche-là moi-même. Parce que je me dis, mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une émission radio dans son poste? On arrive sur on et la radio.
Et ça marche.
En direct. Et ça marche. Et voilà. Et donc, c'est d'être dans cette démarche-là en permanence.
Une ampoule qui s'allume. Simple ampoule qui s'allume.
Et est-ce que vous savez comment marche la boîte à meux?
La boîte à meux.
Ah oui, parce que la boîte à meux, elle marche quand il y a Sandrine. Et donc Sandrine va nous faire une petite chronique boîte à meux. Alors Sandrine.
Bonjour tout le monde, voilà, je n'ai plus ma boîte à meux, voilà. Quand on n'en a plus, on le fait soi-même. Donc pour faire le lien avec la boîte à meux, on peut jamais, puisque c'est la chronique légère et décalée, et pourtant en même temps, moi je vais parler de ce qu'on peut faire avec les enfants cet été. Et cet été, on peut les emmener dans des endroits où ils vont se poser pas mal de questions. Notamment la Cité de l'Espace quand même, puisqu'on est à Toulouse, ne l'oublions pas. Donc c'est un lieu de connaissance vivant, témoin de l'actualité spatiale. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, allez-y. Au quotidien, c'est la possibilité de participer aux animations qui seront proposées tout l'été en fonction de l'actualité. Il y aura des conférences, des événements, des expos et surtout des jeux et puis plein de choses interactives pour les enfants. Voilà, moi la dernière fois que j'y suis passée, j'ai trouvé ça un petit peu vieillot et un petit peu obsolète, mais les enfants par contre avec lesquels j'étais ont adoré. Donc les adultes, faites concession, les enfants vont s'éclater. Pour en savoir plus, c'est avenue Jean Gonnord et c'est à Toulouse. Vous pouvez les appeler, mais bon, on donnera le numéro une autre fois. Si vous n'avez pas envie d'aller voir la fusée avec vos enfants,
y a d'autres choses quand même,
voilà. Eh bien, si vos enfants ont entre 6 et 12 ans, ils peuvent aller faire du théâtre. Alors, le théâtre, comment ça marche? Eh bien, il y a des ateliers qui sont proposés autour de la création d'un spectacle afin de découvrir les différents arts de la scène et de développer son sens artistique et de devenir à la fois auteur, metteur en scène et acteur. Donc, tous les enfants entre 6 et 12 ans peuvent, tous les mercredis de 14h à 15h30, se rendre aux ateliers culturels Henri Desbal, rue du Lot. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez leur écrire au balobon@free.fr. C'est super pour les enfants, les ateliers théâtre, ils apprennent avec les autres et eux-mêmes à s'exprimer. Voilà.
Ça, c'est tout l'été, ça.
C'est tout l'été et c'est 50 euros par trimestre, chers parents. Voilà.
Pas très cher.
Et puis, vous pouvez aller découvrir, pour ceux que le théâtre barbe, les fusées ennuient terriblement, les insectes, ça va les éclater, c'est sûr. Donc, la cité des insectes, Micropolis, alors ça, moi, tous les petits garçons que je côtoie actuellement sont fanatiques. Hein. Les scarabées à cornes, rhinocéros,
garçons,
les mantres...
C'est tout, que les petits
mais
garçons.
Les petites filles aussi aiment bien, mais souvent, les petites filles ont un petit côté, enfin, moi, celle que j'ai dans mon entourage, hein, princesse, machin, et du coup, c'est « Ah, c'est quoi ? Il est bizarre, il a des pattes avec des poils et tout, mais bon, elles y viennent, hein, elles y viennent. » Et donc et ses enfants sont ébahis, vous pouvez prendre le parti de plonger au cœur du milieu naturel en faisant perdre les repères habituels des enfants, en les ramenant, il y a des scénographes qui ont opéré une habile rupture d'échelle à laquelle chaque visiteur prend progressivement la place d'un insecte et devient lui-même acteur de la scène. Ça, c'est vraiment un grand, grand moment à partager tous ensemble, grands, petits et tous les sexes confondus, malgré les premières appréhensions féminines de 7-8 ans, princesse en herbe. La cité des insectes, c'est à Saint-Léon et vous pouvez les joindre 05 65 58 50 50. Voilà. Pour cet été, ce que je vous propose, plein de questions à se poser.
Eh ben oui, encore des questions et toujours des questions avec les petits débrouillards et la main à la pâte. Alors, ils la mettent vraiment la main à la pâte, les enfants, quand vous intervenez dans les écoles, hein, essentiellement, vous intervenez.
Normalement, c'est quelque chose qui est rattaché à l'éducation nationale, qui a pris bonne note de la chose lorsque un groupe d'académiciens très, très inspiré.
Oui, parce qu'il y a Georges Charpak, hein, qui est à l'initiative
Georges Charpak, qui a découvert ça à Chicago, dans les banlieues un petit peu défavorisées de Chicago, où un de ses collègues, également prix Nobel et physicien nucléaire, avait mis la chose en place. Et Charpak a été absolument ébloui. Et il a dit, bon, il nous faut ça, on ne peut pas y échapper, c'est trop important. Et je dois dire qu'il a fait preuve d'une espèce d'obstination et de force de conviction pour arriver à faire passer son message. Et le résultat, si vous voulez, c'est que l'idée a été lancée en 1997. Et en 2002, les programmes étaient modifiés pour prendre en compte les suggestions de cette méthode.
Ça veut dire que c'est...
C'est officiel.
Et c'est inscrit dans l'organisation du temps de travail.
C'est inscrit dans les programmes officiels de l'éducation nationale.
Donc ça veut dire que des gens comme vous vont intervenir... Dans les écoles.
Tout enseignant de l'école primaire
est
censé mettre en œuvre, je vais être très institutionnel, la démarche d'investigation dans le cadre des activités scientifiques dans sa classe.
Oui.
Ça, c'est un plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école.
D'accord.
2002. Bon, ensuite, il y a actuellement, depuis 2 ans, une réforme des programmes du collège qui, aussi, doivent intégrer les enseignants de collège en sciences, doivent intégrer. Donc là, on est sur des disciplines, alors que dans le premier degré, ils sont pluridisciplinaires, les enseignants. Donc, doivent intégrer cette démarche d'investigation dans le cadre de leur pratique professionnelle.
Ce qu'il faut préciser, c'est que jusqu'à présent, on était sur l'idée de la connaissance scientifique qu'on transmettait. Là, dans ce cadre-là, on est sur l'idée de la démarche scientifique. Hein. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus exclusivement sur le savoir, on est sur la méthode.
Oui. Sur la construction.
C'est la construction.
Avec cette idée en arrière-plan que si la science est un outil commode pour faire passer cette démarche, mais qu'elle s'applique à bien d'autres choses. Mmh. Si vous voulez, elle peut s'appliquer à la musique, elle peut s'appliquer, elle s'applique à la langue, au français. Ça marche aussi très bien.
Bien sûr.
À partir du moment où on a décidé que la personne qui est importante, la plus importante dans le processus, c'est l'enfant, et que c'est lui qui doit se poser des questions, voire poser des questions et rechercher la solution, eh bien, on a ouvert une porte extraordinaire. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, il y a quand même un point que moi je considère comme très important, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que pour l'instant, on a parlé essentiellement de la mise en place, du démarrage.
Oui, oui.
Il a quand même un suivi. Si vous voulez, la main à la pâte se veut plus constructive que ça. C'est-à-dire que étape numéro 1, L'observation. L'observation, l'interrogation.
Ça, c'est quand même drôlement important, parce que revenir à cette idée-là qu'à un moment donné, il faut être en capacité ou s'arrêter pour observer, c'est finalement pas si simple que ça. On a le sentiment que dans notre société, on s'arrête plus tellement pour observer, ça va très très vite, et vous revenez à observons d'abord ce qui se passe, c'est quoi un phénomène se passe, observons-le.
Si vous voulez, plus la chose qu'on propose d'observer est simple et quasiment évidente, plus le message est important.
Oui.
Parce que, si vous voulez, je crois que les enfants, ils ont l'habitude à la télévision de voir des tas de choses extrêmement fortes qui passent, qui sont grosses, qui relèvent d'une technologie de haut niveau. Et là, on les fait s'interroger sur des choses toutes bêtes. Tout à l'heure, on faisait tomber un petit morceau de papier. Vous posez un petit morceau de bois sur l'eau, il flotte. Vous mélangez du sirop de grenadine et de l'eau, ça se mélange. Vous mettez de l'huile sur l'eau, ça se mélange pas. Voilà, c'est le type même de petits questionnements. Vraiment tout simple et qui ouvre d'immenses interrogations.
Pierre.
La difficulté, je crois que Jean vient de le dire, c'est se questionner. Mmh. Les enfants ne savent plus se questionner, mais même nous, ici, comme disait Jean, on est confrontés à de l'information gavée par des connaissances ou des pseudo-connaissances. Et les gens, même nous, adultes, et les enfants, c'est notre travail, notre mission, ne savent plus se questionner. Et je crois qu'on doit. Une des tâches, c'est apprendre à se questionner, comme dit Jean, de petites choses, quelque chose d'extraordinaire. Alors, parce que l'observation pour l'observation, c'était pratiquement ce qui se faisait avant la main à la pâte. Je ne sais pas si vous vous rappelez ici des cours de sciences que vous aviez en collège, lycée. On partait souvent d'une observation et puis on enchaînait de suite, l'enseignant enchaînait de suite la manip, ou l'expérience, pardon, enfin la manip. Et puis la conclusion venait d'elle-même.
Oui.
Il faisait des séances pour lui. On n'en est pas si loin. Le problème, c'est ça, c'est le questionnement, la curiosité, l'interrogation, le questionnement, et on rejoint Clémence, l'émission d'hypothèses. C'est tout ce process qui est à remettre en place et pour retrouver le plaisir de s'interroger et de ne plus forcément accepter.
Clémence, avec les petits débrouillards, vous êtes dans cette même idée, mais vous ne fonctionnez pas dans un cadre institutionnel.
On ne fonctionne pas dans un cadre institutionnel.
Voilà. De même ordre, en tout cas.
Non, mais effectivement, c'est redonner de l'espace, un espace de parole au questionnement. Et effectivement, on le fait à travers des enfants, donc dans des ateliers, en centre de loisirs, en bas d'immeubles. Mais justement, ça me fait rebondir sur le fait que dans l'association, il y a également des adhérents qui se disent ces questions-là, on peut se les poser en tant qu'adulte. Donc il y a des animations qui commencent à émerger aussi vers un public. Et qu'adultes autour de différentes, grâce à des débats, etc., et sur différentes thématiques. Donc on a fait intervenir d'ailleurs M. Matricon dans un lavomatique qui est mais qu'est-ce que c'est qu'un arc-en-ciel finalement?
Ah donc, oui, j'ai vu, voilà, alors, j'ai vu la recette pour un arc-en-ciel nocturne sur la revue Alliage.
C'est assez ambitieux quand même.
On
aurait du mal à faire ça dans le lavomatique.
Oui. Ah ben là, il fallait. Mais c'est très rigolo parce que, c'est très rigolo. Oui, il y a quelque chose de complètement fou. Finalement, remettre les sciences aussi dans quelque chose un peu du professeur Nimbus, un peu, ça permet en même temps de dédramatiser la science. Ah, parce que pour ceux qui se sont écartés si jeunes et très jeunes de la science comme moi et qui n'ont jamais rien compris à tout ce qui était scientifique ou pas grand chose en tout cas, finalement c'était aussi parce que c'était tellement il y avait comme quelque chose de lourd sur les épaules de l'élève que j'étais, de l'enfant que j'étais, c'était terrible quoi.
Oui, je crois qu'on a réintroduit une dimension qui est la dimension de communication. Les sciences comme source de communication. Et je crois que, effectivement, vous n'auriez pas vécu la science comme un dogme, on ne voudrait pas gaver de peut-être que vous en auriez discuté, vous en auriez trouvé un plaisir. Et peut-être
Moi, si vous voulez, on a essayé de me gaver, mais très vite, ça s'est bloqué. Si vous voulez, j'ai pas été tellement gavé de science, parce que ça n'a pas pénétré. Quoi. mais c'est une erreur, parce qu'effectivement, bien entendu, il y a aussi une sorte de magie. Hein, quand on finalement, l'histoire de cet arc-en-ciel nocturne, gigantesque, énorme, il arrive avec ingrédients, c'est rigolo, prenez un camion-citerne de grande capacité avec une pompe monopompe et quelques mètres de tuyaux, une queue de pan, enfin, qui doit diffuser, j'imagine, un projecteur de lumière. Enfin, c'est un truc gigantesque. On imagine cette espèce de truc en pleine nuit en train de nous faire un arc-en-ciel en pleine nuit. Bon, ça, c'est de la science. Alors ensuite, il y a toute explication. C'est-à-dire,
on peut faire plus simplement avec juste un spray à eau, hein, jamais. Ça suffit. On va conseiller aux enfants de piquer l'Ajax vitre de papa et maman et ils peuvent très bien faire.
On y
arrive très bien.
Ah oui, avec ça, oui. Déjà, on y arrive.
Moi, personnellement, je suis plus au niveau de ce genre d'expérience.
Voilà, ah, merci. Oui.
Mais c'est vrai qu'avec les sciences, on peut éveiller des. Enfin, à travers une démarche de manipulation, de se poser des questions, on peut éveiller des. Pas forcément des carrières scientifiques, ça peut être des carrières artistiques, hein, et partir dans des trucs, relever des défis techniques, technologiques. Enfin voilà, c'est aussi de se dire que les sciences aujourd'hui, enfin on est dans une avancée scientifique qui est quand même assez importante. Enfin, je veux dire, les sciences, on peut les retrouver partout dans l'actualité. On va parler d'un tremblement de terre, ça peut se relier aux sciences, finalement, comment ça marche un tremblement de terre. On va parler de... Enfin, il y a plein de sujets d'actualité, les nanotechnologies, les OGM, enfin, tout ça, c'est quand même des sujets scientifiques qui concernent tous les citoyens, quoi. Donc ça touche un champ très large, quoi. Moi, j'en suis à me dire, mais les sciences sont partout et tout le monde fait des sciences.
En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la science ou les sciences, ça nous concerne tous. Ça n'est pas quelque chose qui est réservé aux seuls scientifiques.
Surtout pas. Hein, absolument. C'est exactement le message qu'on a envie de faire passer.
C'est ça.
Et je vous dis, ils passent très bien. Les enfants, ils ressortent avec le sentiment que bon, ça y est, on leur a ouvert une nouvelle porte. Ils sont vraiment tout contents. L'expérience, et du coup, l'expérience, ils sont capables de l'appliquer, dans des choses qui ne sont plus strictement scientifiques. Ou alors où le type de raisonnement scientifique n'est là que comme une espèce de vecteur pour autre chose. La musique en est un excellent exemple.
Eh ben tiens,
les arts.
Ou la cuisine.
Eh ben, alors on va pas faire la cuisine ici, mais on va passer un deuxième morceau de musique. Michel, qui nous fait la composition musicale dans cette émission, me montre très rapidement la pochette du disque de telle sorte que je peux pas voir qui c'est.
C'est toujours Wally.
C'est toujours Wally, merci Sandrine. Donc Wally, c'est pour vous.
Un petit frère, depuis 10 mois, il est tout chauve, comme papa. Il a 3 dents, comme papy, il fait souvent pipi au lit, comme mamie. À l'hospice, croyez-moi, c'est le portrait craché de la famille entière réunie. C'est le portrait craché de la famille entière réunie. J'ai un petit frère, depuis 10 mois, il ronfle fort, comme tata, qui quand elle dort me fait penser à un cochon très enrhumé. Ça doit être à cause que ma tata a un gros nez. J'ai entendu maman raconter tout cela à son amie, que même qu'elle a pas dit gros nez, elle a dit ta reine, et elles ont ri beaucoup. I'm gonna raise my own bell, I'm gonna my feet, my mother say. Someone forgive some of my feet, won't feel some evil, I must say. So, come out the other way, above the way, someone up a way to roll, chill, rain, tung, ting, tung, da, sigue da, ba, da, gdi. J'ai un petit frère, depuis 10 mois, il bave un peu, comme l'escargot. C'est le surnom que j'ai donné à ma mamie, à ma mémé. Quand elle m'embrasse, je m'essuie toujours après. Je l'aime, mais surtout depuis qu'elle m'a donné un gros billet. Car je l'ai surprise en train de boire la bouteille de Grand Marnier.
Sous le rocher, le homard. Une émission proposée et animée par Christophe Abramowski.
Sous le homard.
Voilà, sous le rocher le homard, aujourd'hui c'est la science qui est à l'honneur avec Pierre Bonnefond et Jean Matricon qui sont tous les deux qui travaillent ou qui s'investissent à la main à la pâte, tous les deux des physiciens ou physico-chimistes, enfin c'est des noms toujours très étranges, et Clémence Nioche qui est au petit à l'association Les Petits Débrouillards, administratrice de cette même association Midi-Pyrénées. Et Léonard de Vinci dans tout ça, alors lui, il était quoi? Il était artiste, il était scientifique. Est-ce qu'il a metté la main à la pâte, Léonard de Vinci?
Alors là, certainement, c'est certainement un des grands précurseurs de la main à la pâte, parce que il a su, je pense, faire justement cette démarche d'interrogation, d'investigation, d'invention, de mise en pratique de ses idées.
Parce que lui, il a observé aussi, il a observé la libellule, il s'est dit, mais tiens, on pourrait créer un engin qui... Hein, c'est ça, hein, l'hélicoptère. Enfin,
c'est un superbe exemple, mais d'ailleurs, il fait partie vraiment du florilège de nos grands maîtres, si vous voulez. Bon, se référer au cahier de Léonard de Vinci, se référer au croquis, parce que là, ça va me permettre de faire une petite remarque que je voulais absolument faire, c'est qu'il y a un point très très important dans cette démarche, qui est qu'une fois qu'elle s'est mise en place, une fois que les enfants ont compris ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire de s'investir, de s'interroger, de faire toute la démarche, là, il faut passer à l'étape communication. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que le résultat de leur cogitation prenne forme, soit exprimé et soit transmis.
C'est-à-dire qu'ils doivent l'expliquer aux autres, c'est ça?
C'est fondamental. Il faut absolument qu'ils le structurent suffisamment pour faire passer le message.
Parce que l'idée, c'est que finalement, on comprend quelque chose qu'on s'est expliqué.
Tout à fait. Oui, c'est ça. On ne l'a bien compris que lorsqu'on s'est vraiment expliqué.
Voilà.
Et donc, on leur demande de faire cet effort, c'est-à-dire d'aller jusqu'à expliquer ce qu'ils ont fait et les conclusions qu'ils en ont tirées à leurs camarades. C'est pas la plus simple dans tout le processus, parce qu'elle est quand même moins ludique, si vous voulez, que la partie initiale, mais elle est motivante quand même, et en général, ils sont d'accord. On essaye quand même de donner un côté suffisamment ludique à la chose, c'est-à-dire que on leur fait faire des posters, éventuellement on les aide à mettre ça sur l'écran de l'ordinateur, etc. Il faut qu'ils aient le sentiment d'investir quelque chose là-dedans.
Bien
Mais
sûr.
C'est très important d'en arriver là, terminer la démarche par ça.
Moi, ça me fait sourire l'allusion à Léonard de Vinci, parce que ça me fait penser, justement, en fait, on milite aussi pour cette idée que les sciences, c'est sur différentes disciplines. Et c'est pas une tendance qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que dès le collège, on va faire de la biologie ou de la physique. Quand on devient scientifique, on est justement physico-chimiste, biologie moléculaire, ou alors, il y a beaucoup de spécialités, etc.
Oui.
Et que finalement, c'est aussi de se dire, on peut être dessinateur, physicien, artiste, etc. Et que à travers cette démarche-là, on peut justement toucher du doigt à différentes.
Oui, mais c'est vrai qu'on nous a tellement.
C'est plus le cas dans nos sociétés.
Oui, on nous a tellement montré la spécificité de chacune des disciplines, cette segmentation de la connaissance comme des tranches de saucisson, qu'effectivement, ça a fait peur. Hein, c'est-à-dire, on n'arrive plus à faire les ponts. Et vous essayez de réintroduire ces passerelles?
Un des plus gros projets que j'ai fait avec une classe de Toulouse, c'est un projet où le point commun était Léonard de Vinci. On a travaillé en sciences, on a travaillé en art, on a travaillé dans ses écrits, en histoire, et on a fait tout un projet interdisciplinaire, c'est le terme, autour de Léonard de Vinci. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir. J'ai travaillé avec les beaux-arts parce que je n'ai pas des compétences sociales aussi. Nous aussi, à un moment donné, on doit appliquer. On n'a pas des compétences. Donc j'ai trouvé quelqu'un des beaux-arts qui maîtrisait parfaitement les techniques de Léonard de Vinci et qui est venu à travailler avec moi sur ce thème-là. Et je crois que les enfants ont pris beaucoup de plaisir. Je suis surpris que vous ne nous posiez pas la question du temps.
J'allais vous la poser.
Du temps, sûr, puisque quand Jean parle des différentes étapes, moi, ce que j'entends dans les stages de formation pour les enseignants ou avec des collègues amis ou des choses comme ça, c'est toujours, et je crois que Jean l'a aussi entendu, je crois que Clémence aussi, ah oui, mais on n'a pas le temps, on a il y a des connaissances à faire, le discours que l'on entend, il y a des connaissances à faire passer, mmh. et cette démarche est trop longue et on n'a pas le temps.
Vu les programmes,
ce sont les instituts qui vous disent ça, ou les enseignants.
De collège, de lycée aussi.
Mais finalement, j'allais dire...
Les inspecteurs aussi, parfois, oui.
Le marcheur du questionnement scientifique classique se pose pas la question du temps. C'est quelque chose qui est, ça fait partie de la vie de se questionner scientifiquement. C'est ce que vous essayez de nous dire. Donc il y a plus de temps à imaginer, de programme. Il y a plus de programme. On n'est pas dans la question du programme.
Oui, malheureusement, l'école, c'est pas du tout ça. L'école, c'est le programme et le temps. Mm-hmm. Faire le programme dans le temps imparti. Voilà. Donc il a fallu ruser de toutes les façons possibles et imaginables pour arriver à faire passer quelques messages subliminaires sur le fait que on pouvait de temps en temps prendre des petits biais autour du programme et on pouvait comprimer le temps sur certaines choses et le dilater un peu sur d'autres, enfin qu'il fallait quand même adapter et que la démarche était peut-être au moins aussi importante.
C'est relatif dans le temps, si je ne m'abuse.
Ouais, voilà. C'est surtout de se dire que finalement, enfin, ça peut prendre effectivement du temps de mettre en place la démarche. Puis, enfin, c'est beaucoup de travail en amont et, mm-hmm. et en aval. C'est-à-dire qu'il faut préparer le matériel, expérimenter soi-même avant, etc. C'est ça aussi qui peut dire demander du temps. Mais le nombre, les connaissances qui peuvent passer ou les savoirs qui peuvent passer à travers l'appropriation du savoir-faire, elles sont énormes. En fait.
C'est-à-dire que dans le temps, vous parlez de la qualité du temps aussi. Il peut être plus long, mais peut-être plus. Et en même temps,
il y a un terme que l'on entend beaucoup actuellement qui est compétence. Donc là, on parle de connaissance, compétence. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, c'est comme savoir marcher, savoir faire du vélo. L'enfant qui va pratiquer tout petit, on a vu des tout petits, cette démarche-là, très rapidement, le temps, on va en gagner. Mmh. On va en gagner sur les compétences, sur la mise en place même des séquences, mais aussi sur l'acquisition des connaissances. Ce que vous disiez tout à l'heure, elles vont s'ancrer. Ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est un mur que l'on construit. S'il n'y a pas les briques d'en bas du mur,
Bien sûr.
Le maçon pratique une démarche scientifique aussi. Il sait très bien que... Et je crois qu'il faut... Arrêtez, moi, chaque fois qu'on a rencontré des enseignants, c'est le premier discours qu'on a eu. Pierre Léna, qui est un des cadres, la main à la pâte est venu l'an dernier, il a fait une intervention sur Toulouse. J'avais invité des enseignants très, très réfractaires à cette démarche-là. Quand ils sont sortis de cette conférence, ils ont dit c'est extraordinaire. On va essayer. Et une fois qu'ils ont eu essayé, ils nous ont dit oui, c'est avec des enfants handicapés lourds même, ça a très, très bien marché. Donc je crois que c'est un je voulais aborder cette question de temps parce que c'est un faux problème. Mmh. Si on ne donne pas le temps au temps et si on n'essaie pas, on n'y arrivera pas.
Bien sûr, mais je ne l'ai pas abordé en fait parce qu'effectivement ça me semble tellement une évidence, mais c'est bon de le rappeler, que l'institution contraint aussi et a évidemment des impératifs de temps, de programme, etc.
Mais nous, ça ne va pas être avec les enseignants, c'est peut-être plus avec les financeurs. Mais faites ça en 3 heures. Parce qu'effectivement, ça ne se fait pas en 3 heures.
Oui, oui, oui. Mais il y a une question, je voudrais quand même qu'on puisse terminer sur cette question qui pour moi me semble être une question centrale, c'est-à-dire que cette démarche scientifique amène aussi à un esprit critique, à une réflexion comme ça critique qui pose des hypothèses, qui éventuellement amène des contradictions et qui finalement inscrit l'individu dans une démarche de citoyen.
Pierre, je pense que tu es plus proche que moi du terrain pour en parler avec compétence et en particulier ton expérience avec les handicapés me paraît particulièrement brillante là-dessus.
Non, oui, merci Jean. Non, c'est ce que je disais au début, oui, la démarche citoyenne. Je crois que Georges Charpak, au tout début, quand il devait rencontrer promouvoir la main à la pâte, s'appuyait beaucoup sur cette éducation citoyenne, sur cet esprit critique, sur cette capacité à poser des questions, à s'interroger. Je crois que dans le monde actuel, on a beaucoup d'exemples où si on se posait plus de questions, on ne serait pas forcément là. Mm-hmm. Je viens de parler d'une l'expérience des enfants handicapés. L'an dernier, oui, j'ai accompagné un projet sur un centre qui accueille des enfants handicapés de la région toulousaine, avec des professeurs de physique, mais aussi documentalistes, la professeure de français, le chef d'établissement, qui ont vraiment tous adhéré à ce projet-là. Et on a dit, on va essayer de voir d'abord qu'est-ce qu'elle peut apporter cette fameuse démarche à des enfants handicapés moteurs et sensorimoteurs, donc par principe, ça paraît pas forcément évident, de pratiquer cette démarche-là. Et en plus, quels sont... On est allé plus loin, on a cherché, on a mis en place une démarche d'investigation, quels étaient les outils nécessaires, quelles étaient les pratiques possibles, les moyens nécessaires. Et finalement, on a fait ce projet, on a très bien structuré, et on a été très surpris, parce que ce sont des enfants qui adorent cette démarche, pour différentes raisons, parce que l'écrit est difficile pour eux, donc la construction intellectuelle, de par l'expérience, va venir poser les bases et les connaissances, et ça va leur servir de moyen de connaissance, d'acquérir des connaissances avec l'expérience. Et puis, au niveau des moyens, pour faire vite, on s'est rendu compte que les moyens, et c'était tout à fait, les pratiques tout à fait possibles avec eux, sans, on peut faire les programmes de sciences de l'école, enfin de l'éducation nationale officielle, sans aucun problème les enfants handicapés. Les moyens, le seul moyen qui nous est apparu vraiment indispensable avec certains, c'est l'ordinateur pour, comme assistant d'écriture ou assistant de communication. Mais c'est tout. Après, par contre, tout ce qui est acquisition, tout ce qui est maîtrise du geste, les enseignants, on a fait des évaluations, puisque c'est aussi ce qu'on nous demande, les évaluations. Ça a été très, très, très positif. D'ailleurs, ce projet a été présenté à l'Académie des sciences chinoises en Chine en octobre. Donc c'est un projet qui a quand même connu une belle réussite.
Clémence, au niveau des petits débrouillards, cette idée d'éducation populaire, elle est à la base de l'association, si j'ai bien compris. Et donc cette idée du scepticisme scientifique, du doute, vous allez aussi un peu plus loin, puisque vous êtes pas que sur les sciences dures, vous êtes aussi sur les sciences sociales. Hein. Oui, il y a aussi tout un travail qui se fait aujourd'hui.
C'est parce que la démarche est la même finalement pour les sciences sociales, c'est-à-dire se poser des questions et émettre des hypothèses, tester. Apporter, enfin infirmer, enfin voilà, c'est toujours la démarche expérimentale, elle se fait aussi en sciences sociales. Et effectivement, on travaille aussi de plus en plus dans ce domaine-là, mais c'est aussi en s'adressant à notre public, ce que je disais auparavant, sur un public adulte et se poser des questions. Ça va être, il y a eu notamment, par exemple, j'essaie de citer des exemples pour être un peu plus clair, une exposition sur les préjugés et le racisme finalement, et un point de vue de différentes sciences, psychologie, psychiatrie, épistémologie, etc.
Avec les différents modes de questionnement que ces sciences-là peuvent induire sur cette problématique.
Sur cette problématique. Et du coup, d'être sur des débats sur qu'est-ce qui fait que finalement on a des préjugés sur... voilà, est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est purement économique? Est-ce que c'est purement parce que, en tant qu'être humain, d'un point de vue psychologique, c'est en tant qu'être humain, l'étranger, la personne que je ne connais pas, j'ai des a priori, etc. Comment est-ce qu'on bloque tout ça, etc. Donc voilà, il y a eu différentes expositions, notamment une sur la démocratie, aussi,
sur la démocratie
et sur l'économie. Ouais, ouais.
Donc on est très loin des sciences physiques.
On est dans les sciences sociales. Donc la démarche est la même.
En histoire, par exemple, c'est vraiment la démarche qui peut s'appliquer totalement à l'enseignement de l'histoire. Et je crois que là aussi, il y aurait peut-être une autre approche. Les enfants, fait, je ne sais pas vous, qu'est-ce qui vous reste de l'enseignement de l'histoire, mais...
Une multitude de choses.
Mais je crois que... J'ai vu cette année, c'est juste une anecdote, j'ai vu les sujets d'oraux du CAPES en histoire,
ouais.
Et il y avait dans le sujet, à partir de tels documents, construire une démarche d'investigation. Et lisez le document et proposez une démarche d'investigation pour étudier ce document avec votre classe. Donc, même en histoire, même en géographie, je crois que c'est une démarche.
C'est une
sortir les sciences.
Voilà, c'est une démarche.
Et on arrive au moment tant attendu de la chronique de Jeff, de sa chronique sortie d'école. Alors, est-ce que ça va être scientifique? Je ne sais pas avec Jeff.
Eh bien, plus ou moins. Bonsoir. Je fais rapidement un petit bilan. Et je suis, moi, fin de trimestre. Donc, fin de trimestre, petit bilan. Donc là, c'est l'année, vous savez...
Et fin d'année aussi.
Quasiment, ouais. Vous souvenez quand, en début d'année, j'avais rencontré l'instituteur qui s'inquiétait de l'avenir de ma fille dès le quatrième jour de l'année. Donc c'était le Razed, Rezoden, machin, enfin nous, l'orthophoniste aussi, c'était, enfin voilà, donc elle était habillée pour les 10 ans à venir, hein, là, un kit complet, pour nous, malheureusement, on n'a pas réussi à s'inquiéter. Et donc l'année est passée, comme passent toutes les années, charriant des torrents de cadeaux de fête des mères, de fête des pères, moi j'ai pas eu le mien encore, message.
Ça va arriver, ça va.
Donc message perso, je
patience.
Ton collier de nouilles.
J'espère avoir mon collier de nouilles et pourquoi pas une en forme de construction, pourquoi pas de petits atomes, ce serait génial. Donc jusqu'à ce tout se passait normalement jusqu'à ce petit matin de presque fin d'année qui nous a présenté un enseignant inquiet, angoissé, oserais-je dire limite dépressif. Manuela avait répondu n'importe quoi à un test. Verdict, une année de perdu.
Ah ben voilà.
Comme ça au petit matin.
Ah oui.
Alors bon, nous on a réglé tout ça vite fait lors d'un petit rendez-vous à 7h45 du matin. On avait un petit déj en balancier dans l'estomac, on n'a pas l'habitude. Et nous refîmes le test confirmant qu'un test n'a souvent de valeur qu'au moment où on le fait, puisqu'évidemment les résultats se modifièrent sensiblement. Donc déjà, on était beaucoup moins inquiets. Que faire alors?
Oui,
puisque l'enseignant, lui, restait quand même sur des choses. Donc, accepter, lutter. Donc, j'ai testé lutter. Hein. Depuis, je fais des tests à la maison. Tu mangeras tes spaghettis quand t'auras fini de les compter. Je pense. Comment créer un anorexique? Recopie l'édito de la dépêche, même si tu le comprends pas. De toute façon, personne ne le comprend. Articule cantural. Moi, j'arrête là les exemples. J'ai adressé quand même un message à mon enseignant. Un message du cœur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout va bien. Elle est ravissante. Elle est pénible soir au moment de se coucher. Et je pense que c'est un signe de bonne santé. Elle était ravie d'être à l'école au petit matin, seule dans la classe avec papa, maman et son maître adoré. Évidemment. Nous, on prenait des sueurs en découvrant que ne pas comprendre haut, bas, droite, gauche à 5 ans, c'était un problème. Et elle pourrissait le tableau bien propre, prêt à l'emploi en dessinant une famille heureuse plus un chat. Il paraît que les orthophonistes libérales font le plein. Elles viennent de choper une cliente, quand même. Parce qu'on s'est dit, bon, on va quand même voir, ça fait un moment qu'on nous en parle. Et donc, voilà, le jour, je suis allé chez l'orthophoniste pour prendre un premier rendez-vous, hein, pour faire un bilan orthophonique. Et le jour de l'inscription, la petite a émis directement des critiques sur la façon d'écrire de l'orthophoniste. Le M du début de son prénom était mal fait. Je lui souhaite bon courage.
À l'orthophoniste, bien sûr.
À l'orthophoniste.
Mais voilà, c'est le début de l'esprit critique, ça. Hein. La démarche scientifique, ça commence par le questionnement, un peu la critique. Ça marche pas comme ça. Jean Matricon, finalement, vous êtes à la retraite. Hein, vous pourriez aller à la pêche à la truite, je ne sais pas, moi, aller chercher des champignons.
Ah, je vais aller.
Faire votre potager, lire des sommes incalculables de livres. Et non, vous allez aussi, en tout cas, auprès des enfants, travailler la démarche scientifique.
Et avec un immense bonheur. Je pense que de ma vie d'enseignant, j'ai rarement pris autant de plaisir que celui que j'éprouve à faire passer ces petits messages tout simples, tout bêtes. Et je suis ébloui de la façon de ce que me répondent les enfants. Écoutez, juste un petit exemple qui m'a ravi. On traitait du sujet classique, ça flotte, ça coule.
Oui.
Et alors, je demande aux enfants, citez-moi des choses qui flottent. Alors, il en sort toutes sortes. Il y en a qui me dit le Titanic. Alors, évidemment, quand on dit citez-moi des choses qui coulent, c'est le Titanic. Et ben voilà, j'ai trouvé qu'il avait ouvert une superbe porte et on a continué. Et ah, ça nous a été extrêmement utile de comprendre pourquoi, effectivement, le Titanic flottait et coulait. C'était parfait. Il avait vraiment ouvert le débat de façon géniale.
Donc, connaître un petit peu comment a coulé le Titanic, il faut aller sur le site peut-être de la main à la pâte. Qui est ? Est-ce que vous connaissez le site par cœur ?
www.inrp.schlass. Oui, Schlass. Oui. La radio, le Schlass, ça se voit pas.
C'est une barre oblique.
Oui, la map. lamainalapatte.fr.
Donc vous tapez la main à la pâte et puis vous trouvez voilà, sur votre
sur le moteur de recherche
préféré. Et de la même manière pour les petits débrouillards, il y a évidemment un site.
Oui, donc il y a le site, parce qu'on a un réseau national, donc le site national c'est www.lespetitsdebrouillards.org.
D'accord. Également un autre site qui s'appelle le professeur bidouille. blogspot.com. Il paraît que c'était un site où il y avait des gens comme ça qui faisaient une émission de radio pour les enfants, scientifiques, complètement déjantés. Et je crois que vous allez avoir des petits moments de bonheur là, à écouter ça. Mais je n'en dis pas plus. Il nous reste très peu de temps. Peut-être parler des ouvrages qu'il y a au Petit Débrouillard.
Oui, il y a des encyclopédies ou des livres d'expérience en fait sur différentes thématiques.
Et des valises et des mallettes aussi.
Voilà, c'est des petites mallettes. Il y a une mallette 1 degré de plus qui parle de l'environnement et des petites encyclopédies sur au cœur des volcans, plein de sujets.
Également aux éditions Le Pommier, Graines de Science, hein, c'est une collection.
C'est une collection qui, si vous voulez, traduit de façon un petit peu sérieuse, si je peux dire, la façon dont des connaissances vraiment scientifiques peuvent être arrangé pour que le message passe.
Merci, au revoir et à très bientôt.